Le Seigneur m'a demandé de terminer ce matin un thème qui est venu au travers de la Pentecôte, au moment de la Pentecôte. Rappelez-vous où j'ai prêché sur Siméon qui a accueilli Jésus dans le temple et cette prière prophétique que le Saint-Esprit a mis dans sa bouche, qui est une prière où voilà, il a loué le Seigneur de ce que avant de mourir, ce qu'il est mort. Après, il puisse rencontrer le Messie, celui qu'il attendait, et qu'il puisse le présenter dans le temple. Et cette phrase que j'ai relevée, qui rebondit déjà dimanche dernier et qui va rebondir ce matin, c'est « Cet enfant sera un signe qui... ce signe qui va amener la contradiction, qui va créer la contradiction. » Et nous savons que Jésus a connu la contradiction, y compris avec ses disciples, hein, qui ne l'ont pas compris. Parfois, il disait « Jusqu'à quand vous supporterai-je ? » Ne parlons pas, bien sûr, des chefs religieux de son époque, qui l'ont crucifié carrément, ni des Romains, etc. Donc, un signe qui provoquera la contradiction. Aujourd'hui, je voudrais l'appliquer à notre Église. Parce que si Jésus a été un sujet... de contradiction, eh bien l'Église aussi, parce que nous ne sommes pas plus grands que notre maître. On ne peut pas imaginer que Jésus voilà, a été crucifié, a été voilà, a eu toutes ces oppositions, et que l'Église, ça y est, elle est rayonnante. Elle le sera quand Jésus reviendra. Vous voyez, on vit des choses avec notre Seigneur. Et le Seigneur a dit, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde, vous allez souffrir, mais vous allez avoir la victoire. Jésus a eu la victoire sur Satan parce que c'était son rôle de venir détruire les œuvres de Satan. Et nous aussi, nous sommes vainqueurs sur Satan par le sang de Jésus. Mais aujourd'hui, nous sommes encore dans une attente de vivre la victoire pleinement. Donc, c'est un signe qui pointe vers le royaume. Voyez-vous, c'est le signe qui pointe vers le royaume de Dieu. Alors, le sujet de ce matin, c'est le PEA, donc l'église d'Aubergenville que nous sommes, est un signe. Hein, un signe, et on va s'appuyer sur l'épître de Pierre, au chapitre 1er, versets 2 à 9, qui va nous guider dans la compréhension de ce signe que nous devons être et que nous sommes, même si nous ne le réalisons pas. Mais ce matin, j'espère qu'on va le réaliser pleinement, que nous sommes un signe pour le royaume de Dieu. Alors 1 Pierre 2, 9 dit, vous par contre, déjà le par contre, vous voyez, ça tombe pas de source, hein. Vous par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus. Les vertus, c'est tout ce qui est valeur, tout ce qui est les qualités, hein, de quelque chose. Donc les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Verset 10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde ou grâce, hein, c'est la même chose, et qui maintenant avez obtenu miséricorde ou avez obtenu la grâce, etc. Pierre, dans cet épître, construit un développement qui est le fameux « Why, how, what » hein, de Simon Sinek. Vous en ai parlé, j'étais parti en Angleterre avec Olivier et Samuel, voilà pour... Voilà cet intervenant qui justement montre que même dans le monde, quand on commence par le pourquoi au lieu du quoi, de ce qu'on fait, hein, le what c'est ce qu'on fait, eh bien même dans le monde, on réussit les choses. Et bien plus forte raison, bien sûr, dans le royaume de Dieu, c'est vrai, on commence par le pourquoi. Alors on commence par le pourquoi, le comment et le quoi. Alors le pourquoi, c'est... c'est ici, vous êtes une race élue, etc. On verra ces trois éléments, hein, qui sont importants de l'identité. Vous êtes une identité qui est le peuple de Dieu. Ça, si nous ne revenons pas à ce pourquoi nous sommes là, pourquoi en tant qu'Église, nous passons à côté des choses. Deuxièmement, le moyen. Hein. Vous êtes appelé des ténèbres à son admirable lumière, afin d'annoncer. Alors le moyen, c'est la grâce, c'est la miséricorde de Dieu. Hein. Ça, c'est la croix hein, qui est venue nous racheter. Donc ça, c'est le moyen. Et le quoi faire, eh bien, c'est proclamer. Proclamer afin de proclamer ou d'annoncer, si vous voulez, les vertus. Hein, les... Donc c'est la finalité de l'Église, qui est signe du royaume, c'est d'annoncer, de proclamer. Proclamer par la parole, bien sûr, mais aussi par les actes, hein, par la guérison. Aujourd'hui, le Seigneur guérit, on peut, dans le nom de Jésus, proclamer la guérison. Mais c'est pareil, on ne fait pas faire une technique, il faut proclamer au bon moment, hein, quand le Saint-Esprit nous le montre, hein, pour que ça marche, si vous voulez. Donc nous sommes un signe qui provoque la contradiction. Contradiction, dimanche dernier, pour ceux qui n'ont pas pu entendre le message, il est enregistré, il est aussi synonyme de paradoxe. Sauf que le paradoxe, c'est on intègre une chose et son contraire qui sont vrais. Hein, c'est vrai dans le royaume de Dieu. Hein. Le royaume est déjà là, mais pas encore pleinement là. Voilà. Donc le royaume, déjà pas encore, c'est un paradoxe. Et ça confronte notre logique duale, hein, le bien-mal, blanc-noir, hein, voilà, c'est ou blanc ou noir. Non, c'est l'un et l'autre. C'est, voilà. Et même Jean-Baptiste, qui quand même était le des plus grands prophètes qui annonçaient l'avenir de Jésus, il était perplexe. Dans sa prison, il a commencé à douter de ce qu'il a lui-même annoncé en disant « Jésus va venir et je ne suis pas digne de délier les lacets de ses sandales. Il va vous baptiser d'eau. » Donc l'eau, c'est la même chose que Jean-Baptiste, c'est la repentance, donc baptiser d'eau. On annonce la repentance et Jésus, la première chose qu'il a fait, il a annoncé la repentance dans son message. Hein, c'est la même chose que Jean-Baptiste. Donc ça, Jean-Baptiste l'a intégré, il a vu que Jésus le faisait, et de feu. Et le feu, c'est le jugement, de jugement. Et ça, il ne l'a pas vu. Et il pensait, Jean-Baptiste, que Jésus allait aussi juger ceux qui sont les impies de son temps, aller juger les Romains qui étaient là pour opprimer le peuple de Dieu, pour juger les chefs religieux qui étaient dans l'hypocrisie, etc., juger cela. Et il n'a pas vu ce jugement. Et donc il s'est dit, est-ce que vraiment je me suis trompé ? Non, et ça, je le dis souvent, enfin, il n'y a pas que moi qui le dis, les prophètes sentent des choses, mais ils se trompent pratiquement toujours dans le temps, parce que le temps ne nous appartient pas. Le temps appartient à Dieu, voyez ? Et le jugement, il va venir, sauf que ce n'était pas au temps de Jésus, hein, le jugement. Il est lui-même a été jugé, parce qu'il est devenu péché, donc Jésus a été jugé, mais il n'est pas venu pour juger. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et il viendra à la fin, et c'est le retour que nous attendons. Eh bien, il s'est passé 2000 ans, et peut-être et un peu plus maintenant, et on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir, mais peu importe. Nous savons qu'il va revenir et qu'il va juger les choses. Et à ce moment-là, le baptême d'eau et le baptême de feu vont être accomplis, mais pas dans le même laps de temps, voyez-vous. Donc ça, c'est un paradoxe. Paradoxe où les deux sont vrais, il vient pour le baptême d'eau et le baptême de feu, sauf que ce n'était pas dans le temps de Jean-Baptiste. Et Jésus a dû le rassurer en disant, dites-lui que je suis en train de guérir, d'ouvrir les yeux des aveugles, etc., et que je suis en train de faire les œuvres du royaume. Et le reste, mais vous voyez, il reste toujours énigmatique, Jésus. Pourquoi ? Parce que le royaume de Dieu doit être acquis par notre foi et pas par notre intelligence. L'Église, si elle veut exister, si elle veut éviter ces paradoxes, eh bien, elle va se conformer au monde, parce que dans le monde, on n'accepte pas les paradoxes. On veut que tout soit fait tout de suite, voyez-vous ? Par exemple, tous ceux qui sont derrière les grandes firmes multinationales, parlons pas de la pharmacie, ils veulent dans l'année avoir 10%, 20% de leur capital qu'ils ont investi. Donc c'est l'immédiat. Ils vont pas attendre le retour de Jésus hein, pour avoir de l'argent. Vous voyez ? Donc dans le monde, on veut tout tout de suite. Et souvent, nous chrétiens, on veut tout tout de suite aussi. Or, nous sommes dans le royaume de Dieu, où c'est Dieu qui conduit l'histoire, c'est pas nous. C'est pas nous qui pouvons contrôler la situation, etc. Et donc il faut apprendre, eh bien, la patience, etc. Et tout ce qui va avec, ce sont les vertus du royaume. Et ne pas nous conformer au monde. Si nous faisons pareil que le monde, eh, nous sommes plus sel et lumière. Nous sommes comme le monde. Dimanche dernier, j'ai beaucoup parlé de l'épiscopat. De la dérive de l'épiscope, de la dérive de l'évêque, qui est une fonction dans l'Église, qui est parlée beaucoup plus souvent que de pasteur. Hein, l'évêque est cité très souvent. Eh bien, depuis le IVe siècle, la fonction d'évêque dans l'Église de Jésus-Christ a dérivé au point de chercher le pouvoir et a conduit toutes les divisions successives que je vous ai montrées sur 2000 ans. Et aujourd'hui, ça se passe dans l'Église évangélique qui est touchée comme toutes les autres églises. Et cette dérive, c'est parce que, eh bien, la fonction d'évêque veut le pouvoir alors qu'elle devait être dans le service. On va voir ça tout de suite par les diapos que j'ai préparées. Donc, tout d'abord, l'identité, le why. Le pourquoi. Pourquoi l'Église est un signe ? Eh bien parce qu'elle est le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, il a trois caractéristiques. C'est une race sacerdotale, c'est un peuple racheté et c'est une nation sainte. Alors voyons d'abord la race sacerdotale. La race sacerdotale, renvoie à la notion d'engendrement. Nous sommes nés d'une race, race blanche, race noire, race jaune, etc. C'est par l'engendrement, par la naissance. Or, nous sommes nés de nouveau. Que nous soyons blancs, jaunes, gris, noirs, peu importe, nous sommes nés de nouveau. C'est notre nouvelle race, voyez-vous. C'est la nouvelle naissance qui définit notre race. L'Église, elle s'en fiche de ce qui est racial, biologique. C'est pour ça qu'il ne devrait pas exister de racisme dans l'Église. Hein, et nous devons nous veiller à cela, regarder nos cœurs, hein, parce que, voilà. Et aux États-Unis particulièrement, qui est une nation chrétienne, hein, cette notion de race ne devrait pas exister. Parce que la race sacerdotale fait de nous des individus qui appartenons à une race qui est universelle, qui est partagée par tout le monde, par la puissance de l'action divine. Et dans cette race dans laquelle nous sommes, nous ne pouvons pas pécher. Alors ? Nous ne pouvons pas pécher. Ça, c'est vraiment proclamé par Jean. Alors, j'ai des passages, je ne les trouve plus. J'ai perdu mes notes. Non, elles sont là. C'est dans la première épître de Jean hein, qui proclame cela, que dans cette 1 Jean 3:9, il dit « Celui qui pêche est du diable ». Ok ? Ça, c'est une proclamation. Et il dit « Quelqu'un, quiconque est né de Dieu, donc de la race de Dieu, ne pratique pas le péché, il ne peut pas pécher ». Et vous, c'est très fort, ça. Il faut être convaincu que la race dans laquelle nous sommes engendrés, nous ne pouvons pas pécher. Alors bien sûr, on va trouver le paradoxe tout à l'heure, on voit qu'on pêche. Mais vous voyez, c'est paradoxal. Mais en même temps, c'est vrai. On ne peut pas retirer cette affirmation de Jean, et bien sûr ailleurs, qui dit que nous ne pouvons pas pécher quand nous sommes nés de nouveau. Nous sommes ainsi, par notre nouvelle naissance, engendrés à une race qui n'est pas pécheresse. C'est pourquoi l'Église doit être composée, par l'Église évangélique, composée d'êtres humains qui sont nés de nouveau, qui ne sont pas religieux, qui ne sont pas attachés à une religion. Parce que sinon, cette Église évangélique est condamnée à la dérive et finit par être une Église de multitude. C'est la différence entre les Églises de multitude où tout le monde va parce qu'il est sympathisant du christianisme, mais non pas. Nous sommes des églises de profession, qui professons par la foi ce que nous sommes, ou des confessants, églises de confessants, de professants, qui sont les églises évangéliques depuis 1848, où l'église évangélique s'est séparée de l'église protestante. Alors, ça c'est la race, le sacerdoce, une race sacerdotale. Et bien tout simplement parce que comme nous sommes engendrés par le Saint-Esprit, pour être dans cette communion avec Dieu, et que nous avons cette origine divine, eh bien, nous sommes des sacrificateurs. Voyez-vous ? Nous ne sommes pas des dieux, nous sommes des sacrificateurs pour Dieu. Le sacrificateur, il apporte des sacrifices. Sacrifices non plus pour nos péchés, puisque Jésus l'a fait, mais des sacrifices de louange, d'adoration, des sacrifices voilà, qui glorifient Dieu. Ce qui distingue le peuple de Dieu dans la nouvelle alliance, c'est qu'il n'y a plus de Lévites et des autres tribus. Voyez-vous, les Lévites, c'était une des tribus, il y avait les 11 autres tribus qui n'étaient pas des Lévites. Et l'Église de multitude, qu'on appelle l'Église universelle, l'Église catholique romaine, eh bien, a recréé plus tard ces deux catégories de personnes, les prêtres et les laïcs, les clercs et les laïcs. Les clercs, dans le clergé, il y a les évêques, les prêtres, les moines, etc. Et c'est tout simplement la même reproduction de l'organisation de la société de l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, c'est justement un des principes de la réforme protestante, Luther, Calvin et tous les réformateurs, qui ont déclaré que le sacerdoce est universel. C'est un sacerdoce universel. Tous les croyants sont des sacrificateurs qui apportent un sacrifice envers Dieu. Alors, je voudrais juste vous montrer par des symboles, vous voyez, on le retrouve dans la symbolique aussi, cette différence entre l'Église. Alors, je prendrai l'Église catholique et l'Église réformée, hein, qui a été plus loin que l'Église luthérienne. Parce que Calvin a écrit un gros pavé à l'institution chrétienne, hein, où il s'est penché sur l'organisation. Comment l'Église, on parle de l'Église, hein, qui est un signe, comment l'Église doit être organisée. Et donc, la symbolique aussi qui a été développée fait partie de ça. Alors, si on prend l'Église catholique, le sacerdoce est signifié par une robe. Et ce qui est au cou, cette écharpe, comment ça s'appelle ? L'étole, voilà. Ah, mince, il y a quelque chose qui empêche de voir, voilà. Ah, encore un peu, bon, ça va. Voilà, l'étole, ça c'est l'étole. Hein. L'étole, dans l'ordination, parce que le prêtre, il est ordonné par l'évêque. Hein. Il est ordonné, donc il reçoit un mandat, cette étole marque dans la symbolique quelque chose de très fort. Et cette étole, il va le porter, et il va le porter dans son cercueil. Hein. C'est quand il reçoit l'étole, il va être mis dans le cercueil avec son étole. Il la garde jusqu'à la fin. C'est vraiment une marque, c'est un symbole de ce que il n'y a que lui seul qui peut donner les sacrements. Oui, il y a 7 sacrements, hein, dans l'Église. Et c'est l'étole. Vous voyez, le pape porte son étole, hein, l'étole qu'il a reçue en tant que prêtre, et il la garde. Il y a d'autres fonctions qui se rajoutent, mais l'étole est importante. Donc l'aube et l'étole, et aussi chez les orthodoxes, font partie de cette compréhension du sacerdoce. C'est pour l'étole est reçue par l'évêque lors de l'ordination, hein, pour donner les sacrements. Or, pour nous, nous savons que les sacrements, les deux sacrements que nous avons retenus, c'est le baptême et la scène, hein, qui ont été institués par Jésus, et on n'a pas besoin de l'étole pour cela. Mais l'étole rappelle que ceux qui la portent sont des vicaires du Christ, c'est-à-dire qu'ils sont à la place de Christ, ils remplacent Christ. Vous voyez, c'est des médiateurs. Alors prenons l'Église réformée, et là aussi un symbole, hein, qui n'est pas l'étole, qui est la toge ou la robe. Hein. C'est aussi un signe, on parle de l'Église qui est signe, hein, elle signifie quelque chose. Elle signifie la connaissance. Parce que quand vous regardez ce costume, si vous voulez, est porté par les magistrats, est porté par les recteurs d'université, c'est le signe de la connaissance, de la maîtrise de quelque chose. Or, Calvin avait à cœur d'envoyer des pasteurs en France, à partir de la Suisse, en connaissant la parole. Le gros problème des églises qui étaient des églises du désert, hein, c'est qu'ils n'avaient plus de pasteurs, parce que les pasteurs, Louis XIV, les a tout de suite envoyés soit aux galères, ou les a tués, ou en tout cas, ils sont partis les premiers en Angleterre, en Allemagne, en Suisse, etc. Et du coup, l'église était privée de personnes qui étaient formées dans la parole. Et ça donnait beaucoup de dérives, hein, forcément. Quand on ne connaît pas la parole, on s'appuie sur l'expérience qui est très bien, mais qui doit être toujours vérifiée par la parole. Donc voilà, cette issue, Calvin a pris simplement le symbole de la connaissance de la parole, de l'interprétation de la parole. Parce qu'on peut interpréter mal, et aujourd'hui on écoute beaucoup tout un tas d'enseignements sur Internet, c'est pas mauvais, mais est-ce que vous avez l'interprétation correcte? Et c'est pour ça que j'avais à cœur de vous amener à étudier la théologie du royaume, qui elle est l'interprétation, qui est l'exégèse, qui est plus qu'une interprétation, l'exégèse de la parole. Qu'est-ce qu'elle dit la parole à propos du royaume? Si on n'est pas formé à cela, et aujourd'hui, on a l'impression de connaître, et en fait, vous voyez, comme avec les vaccins, toutes ces polémiques qu'il y a, eh bien, beaucoup de polémiques sur la Bible, parce que on parle pas forcément en connaissance de cause. Le pasteur est formé, et c'est une formation longue et qui prend du temps pour bien interpréter la parole. Donc, vous voyez, le sacerdoce est vécu différemment. Ça c'est pas un vêtement pour donner des sacrements. Le sacrement, vous le recevez directement du Seigneur. Mais c'est un... Alors, il y a une autre image que je n'ai pas mis là, qui est un peu caricaturale, mais je la trouve pas mal quand même. C'est que le pasteur Roland de Puri, tu la connais? Ah, je ne le connais pas. Voilà. Il est bien? Dans le Vercors, oui, voilà. Alors voilà ce qu'il dit, Roland de Puri. Il a une image pour le pasteur, hein, voilà, qui est là avec sa robe. Des évangéliques n'ont pas repris cette image de robe, hein, mais voilà, le pasteur doit connaître sa parole, sinon il peut pas être pasteur. Dans l'armée de combattants, le pasteur occupe la place de cuisinier. Il prépare et distribue la nourriture, mais ceux qui sont sur la ligne de front et se battent régulièrement, ceux qui témoignent face à l'ennemi, qui affrontent sans cesse l'adversité, sont des laïcs. Donc il compare le pasteur à un cuisinier pendant le combat. Alors il n'y a pas tout le temps des combats, hein, de l'église, donc on peut... Voilà, c'est une image concernant l'armée. Dans l'armée, il a dit, sa fonction, c'est d'être cuisinier. Ouais. Hello? Il nourrit. Voilà, il nourrit. Voyez, donc ça permet de repositionner les choses. Il doit nourrir voilà, les combattants qui, eux, sont au front toute la semaine, etc., pour qu'ils aient de quoi tenir sur la parole de Dieu. Le pasteur est important dans l'Église de Jésus-Christ, mais pas indispensable comme le prêtre. C'est d'ailleurs très intéressant parce que Vatican II, s'est appuyé sur la connaissance de la parole, des écritures. Hein. Donc il y a une grande ouverture dans les années 60, fin des années 60, avec Vatican II. Aujourd'hui, si vous lisez, si vous regardez Internet, c'est sûr que vous avez dû tomber là-dessus, vous avez des sites de catholiques traditionnalistes, des catholiques qui sont sur la tradition catholique depuis des millénaires et qui disent que Vatican II, c'était satanique. Ils disent que c'est satanique. sont très 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 durs et disent que le pape est satanique. Voilà. Donc on distingue ceux qui sont après le Concile Vatican II et avant le Concile. Alors on appelle les pré-conciliaires, pré-avant et post-conciliaires. Tous séparés en deux. Et les pré-conciliaires qui avaient une forme de liturgie catholique, ils considèrent que les post-conciliaires sont sataniques, que le Vatican est rempli de satanistes et qu'ils doivent... ça c'est eux qui le disent, hein. C'est pas moi ou l'interprétation évangélique. Tout simplement parce que, ils considèrent que les sacrements ne sont plus assurés. Par exemple, il y avait avant des ADAP. Les ADAP, ce sont été des messes qui ont été conduites par des laïcs. Autour de nous, il y avait tout plein, à Vétheuil, ici, etc. Parce qu'il y a un manque de prêtres. Par contre, ils ne pouvaient pas, bien sûr, bénir l'hostie. Donc il fallait qu'ils cherchent des hosties, bénies, etc. Enfin, voilà, on garde quand même les règles. Ils ont gardé quand même les règles, mais ils faisaient des messes. Tout ça, c'est supprimé. Depuis que les nouveaux évêques sont venus, en particulier dans la région, tout a été supprimé et qu'on revient aux prêtres. Et d'ailleurs, le prêtre s'est retourné les dos aux fidèles pour regarder en direction de Dieu, voyez, alors que Vatican II a retourné à nouveau vers les fidèles. Donc tout ça, ça a changé la posture pour revenir à cette compréhension du sacerdoce. La volonté aujourd'hui ces catholiques post-conciliaires, c'est qu'ils disent que l'Église catholique est devenue trop protestante. C'est des protestants, ils sont devenus protestants. Donc c'est pas possible. Il faut revenir à cela et garder cette séparation laïque et claire. Voyez que la notion de sacrement est interprétée de manière totalement différente. Pourtant, ce sont tous des chrétiens. Donc ça, c'est la première chose que l'Église signifie. Elle signifie une race sacerdotale. La deuxième chose qu'elle signifie, c'est un peuple racheté. Le peuple racheté, c'est un peuple qui était en esclavage, comme en Égypte, dans l'Ancien Testament, c'est cette image que j'ai prise, et qui est sorti de l'esclavage de l'Égypte, esclave des Égyptiens, et qui a été racheté pour vivre dans la liberté. Liberté dans le pays de Canaan. Entre-temps, ils ont passé par le désert. Et ça s'est très mal passé, parce qu'ils ont voulu retourner en Égypte. Voyez, quand les épreuves deviennent un peu difficiles, on retrouve la chair qui nous tire en arrière. Si nous sommes un peuple racheté, ça veut dire que nous étions perdus. Nous avons été rachetés par grâce, par notre Seigneur Jésus-Christ. Et si aujourd'hui nous sommes encore un peuple racheté et qui ne sommes pas encore complètement délivrés, nous continuons à pécher. Tout à l'heure je disais que nous ne pouvons plus pécher, oui, parce que nous sommes, par la nouvelle naissance dans notre esprit, incapables de pécher. Et là, nous péchons à nouveau. Et toujours... Jean, dans le premier épître de Jean, chapitre 1, verset 8, dit que si nous disons que nous ne péchons, que nous ne péchons pas, nous séduisons nous-mêmes, et nous sommes menteurs. Alors vous voyez tout de suite qu'on est dans un paradoxe. D'un côté, on ne peut pas pécher, de l'autre côté, on pêche. C'est ce qu'on appelle un paradoxe. Les deux choses sont vraies en même temps. Nous sommes saints, peuple sacerdotal, et nous sommes pécheurs, même si nous sommes rachetés par grâce. Et ce que nous devons faire, ce n'est pas rejeter cette condition, c'est de l'accepter, mais de choisir. Non pas de choisir d'obéir à la loi, mais c'est de choisir de marcher par l'esprit. Alors j'aime énormément la première leçon du torrent qui purifie. Ceux qui l'ont, relisez-le. Mais j'étais émerveillé que Elsa, qui a dû enseigner ça, elle s'en est appropriée et l'a changé. Moi, je la voyais changer comme ça, rien que par cet enseignement. Marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit, c'est un choix. Marcher par l'esprit. Voyez-vous, c'est vous qui devez vous décider de marcher par l'esprit. Quand vous êtes dans la chair, allez hop, je marche par l'esprit. Vous voyez, c'est une décision. C'est ça la décision. C'est pas d'obéir à la parole de manière légale. C'est de marcher par l'esprit, et quand vous marchez par l'esprit, vous ne pouvez que obéir à la parole. Voyez-vous, c'est ça qui est le message. Notre défi, c'est non pas de ne pas manger du fruit de l'arbre de vie, ce qui était la première recommandation dans le jardin d'Éden, mais c'est de choisir de marcher dans notre nouvelle nature en Christ, qui nous a été donnée. Voyez-vous ? Et ça, c'est fondamental pour le chrétien évangélique de le comprendre. Parce que s'il suit tout le christianisme religieux, eh bien, forcément, c'est un christianisme de multitude, où il y a des chrétiens qui sympathisent avec le christianisme. Mais c'est pas ça. C'est pas une question de sympathiser, d'être content d'être chrétien ou pas chrétien. C'est de marcher par l'esprit. C'est de marcher selon la race que nous, sacerdotale dans laquelle nous avons été engendrés. Donc nous sommes un peuple racheté et qui comporte justement ses faiblesses, comme l'a été le peuple d'Israël dans le désert. On a vu qu'ils n'ont pas pu rentrer, simplement parce qu'ils n'ont pas choisi de croire que Dieu était puissant pour renverser les géants. C'est une question de foi. Et troisième point, c'est nous sommes une nation sainte. Une nation sainte. Sainte au sens de consacrée à. Voyez-vous ? C'est pas sainte. La sainteté, on l'a vu dans le sacerdoce. Là, c'est dans le fait que c'est une nation qui est consacrée à Dieu. Cette première image montre que nous avons la parole, qui est l'épée de l'esprit, justement, qui peut séparer jointure et moi, esprit à mes esprits. Donc l'épée de l'esprit qui nous aide à nous conduire dans cette nation, et pour annoncer les vertus. Alors j'ai pris trois vertus qui sont des vertus qui demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais il y a d'autres vertus. Il y a la justice qui en découle. Il y a la persévérance, il y a toutes ces qualités du chrétien qui m'a. D'ailleurs, je vous invite à voir le film Le Voyage du Pèlerin, qui maintenant est disponible, et qui vous montre toutes ces vertus du chrétien qui découlent de sa nature. Et un peuple, une nation, vous voyez, les nations ici païennes sont représentées par des drapeaux qui définissent la nation. Mais la nation n'existe pas sans État. L'État-nation, parce que l'État, c'est la notion juridique de nation. Nation, ce n'est pas une notion juridique. Elle n'existe pas. C'est un rassemblement de personnes dans une frontière donnée, etc. Mais les États, ce sont l'aspect juridique de la nation. C'est ceux qui représentent, par exemple, l'ONU. Il y a des États qui adhèrent à l'ONU. C'est 193 États membres qui représentent des nations. L'État est un peu comme la personne morale d'une association, c'est virtuel un petit peu, mais qui représente la nation. Et l'Église, eh bien, est là un État. Alors, il y a l'État-nation. L'État-nation est représenté, ici, ça c'est de Hobbes, qui a défini les premiers éléments de l'État-nation. L'État-nation est incarné par un souverain. Un souverain, que ce soit un roi, que ce soit une reine, que ce soit quelqu'un d'emblématique, un gouverneur, qui a d'un côté le glaive de la justice, qui a à ses côtés la justice, la police, la prison, enfin pour faire respecter la justice temporelle, et de l'autre côté le sceptre de l'autorité. C'est-à-dire que quand il décide, c'est quelque chose qui doit être appliqué. Donc ça, c'est l'État-nation, et vous voyez bien tout de suite qu'il y a du pouvoir derrière ça, que sur une nation, que ce soit de 100 000 habitants ou d'un milliard d'habitants, eh bien, celui qui a ce pouvoir-là, c'est énorme. Donc c'est la recherche du pouvoir. Donc, dans la temporalité présente, eh bien, on est la recherche du pouvoir. Et quand on parle du pape, hein, donc de l'évêque de Rome, hein, qui est le pape, qui est la même chose, eh bien, l'épiscopat qui cherche le pouvoir hein, temporel, eh bien, vous voyez, on retombe dans l'équivalent de l'État-nation. Alors que l'Église doit être aussi un État, mais c'est l'État de l'Église, l'État ecclésial. Et l'État ecclésial, c'est pas du tout pareil. D'ailleurs, vous voyez dans Matthieu chapitre 20, verset 25, Jésus en parle à ses disciples. Il réunit ses disciples au verset 24. D'ailleurs, il parlait des fils de Zébédée, hein, qui la mère avait une très haute opinion de ses enfants, Jacques et Jean. Il a dit, il y en a un, je veux qu'il soit à ta droite et l'autre qu'il soit à ta gauche dans le royaume. Rien que ça. Bon. Et Jésus répond à ça au verset 25. Il dit, vous savez que les chefs des nations, hein, donc ceux-là, hein, que les chefs des nations vous les tyrannisent, donc c'est des tyrans, hein, et que les grands abusent de le pouvoir sur elles, hein, l'abus de pouvoir. Il n'en sera pas de même parmi vous. Hein. Donc il définit l'État et celui qui dirige l'État, un dirigeant de l'État, de cette manière-là. Il n'en sera pas de même parmi nous, mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Donc vous voyez, dans l'État ecclésial, qui est, l'Église est une nation, hein, une nation sans État n'est pas une nation, c'est la forme juridique de la nation, ben, l'État ecclésial doit être conduit. Non pas par des souverains qui incarnent le Christ, hein, voilà, comme dans les nations païennes, hein, le pharaon il incarnait Horus, c'est le dieu soleil. D'ailleurs le roi soleil, Louis XIV a fait pareil, hein, il incarnait le soleil, Apollon, hein, c'était Apollon parce qu'on est les Grecs, on en était avec les Grecs, et tout ce qui est au Louvre jusqu'au bout, vous avez tout à la gloire du soleil Apollon, et Louis XIV incarner cette image. Donc, vous voyez, il n'y a rien de changé depuis l'Égypte, depuis l'Antiquité. Mais vous, dit-il, eh bien, il n'en sera pas de même parmi vous. Que celui qui veut être le chef veut dire tête, tout à l'heure on a parlé des pères, eh bien, soit le serviteur. Donc, dans l'Église, qui est une nation sainte, nation mise à part, il devait y avoir de ceux qui gouvernent des serviteurs, et que des serviteurs. Il est absolument hors de question d'utiliser un pouvoir. C'est pourquoi, là-bas, vous avez l'organisation que j'ai mise, parce que beaucoup me disaient que, voilà, ils voulaient bien saisir comment on était organisé. Eh bien, c'est basé sur la séparation des pouvoirs, justement. Parce qu'un seul pouvoir, peut conduire, hein, parce qu'on est, on est en tant que dirigeant aussi sujet à des failles, hein, et donc peut conduire à un abus de pouvoir. Et d'ailleurs, Jacques Pouget a dû écrire un livre sur l'abus spirituel des pasteurs, par exemple. Voilà. Et pour éviter cela, eh bien, on a découpé des fonctions, hein, des fonctions d'anciens. Ceux qui dirigent, c'est les anciens et les diacres. C'est pas les pasteurs. Les pasteurs, comme je disais tout à l'heure, c'est plutôt des cuisiniers, hein, de ceux qui doivent connaître la parole. Alors, il peut y avoir des pasteurs anciens. C'est ce que je suis, pasteur et ancien. Je fais la différence entre ancien et pasteur. D'ailleurs, l'apôtre Pierre, dans l'épître Pierre, dit « Moi, ancien comme vous ». Pourtant, il était apôtre. Donc, ancien et apôtre, ça va de pair. Parce que l'ancien, c'est un titre honorifique, comme vénérable, comme etc. Ça ne définit pas la fonction. Il faut définir la fonction. Qu'est-ce que l'ancien y fait particulièrement? Au CC grec, quand Yves Cornaz a créé les CC grecs, il a, comme il était d'origine des frères, il a dit, pasteur, ça n'existe pas, vous êtes tous des anciens. Donc on était anciens, sauf que on ne savait pas ce qu'on devait faire, les anciens. Anciens, et chacun faisait ce qu'il voulait, ce qui fait que ça conduit à des divisions. toutes les CCY n'existent pratiquement plus. Parce que il faut définir les fonctions. L'épiscope est une fonction. Chez nous, le superviseur général, c'est un épiscope. C'est-à-dire, c'est un surveillant. Il veille sur l'Église. Il fait attention, y compris sur le pasteur, qui doit aussi respecter les règles. Vous voyez le pasteur principal, dont je suis, c'est celui qui préside à l'État ecclésial ici, qui préside. Mais en même temps, je suis encore pasteur opérationnel. Ce qui sera le cas de Pierre-André, qui va conduire les opérations, qui est aussi une responsabilité d'ancien pour conduire les ministères dans l'Église. L'exécutif, voyez. Et après, il y a d'autres fonctions. Donc, l'ancien, c'est honorifique, et les spécificités doivent être claires pour tout le monde. Les ministères dont, dans Éphésiens 4, sont des ministères donnés par Christ, alors que anciens, c'est des qualifications humaines qui doivent être exercées selon la notion de serviteur, de servir. Hein. Les ministères dons sont des dons qui sont donnés à l'Église pour édifier dans la foi, pour l'édification dans la foi, pas pour gouverner, pas pour diriger un gouvernement d'Église, mais on peut avoir plusieurs casquettes, et là, ça devient un peu compliqué, mais c'est pas parce que c'est compliqué que c'est difficile à comprendre. Là-bas, on a les explications de notre identité. Donc, je reviens tout simplement à ce que Pierre nous enseigne. Pierre nous dit, vous êtes par contre une race élue sacerdotale, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, parce que vous avez obtenu miséricorde. Donc c'est que nous sommes une race élue de Dieu et sacerdotale, nous sommes un peuple racheté, nous sommes une nation sainte avec un État qui exerce la gouvernance par le moyen de la grâce. C'est par le moyen de la grâce. Nous n'allons pas utiliser la grâce pour précéder ça, c'est parce que nous sommes sous la grâce que nous le faisons et que nous annonçons, nous proclamons les vertus par ce que nous sommes. Non simplement parce que nous disons, mais ce que nous sommes. Et nous devons être une Église qui proclamons. Et j'invite tous ceux qui ne sont pas encore revenus de venir parce qu'on a des projets. On a des projets que nous avons arrêtés. Hein. Il y a beaucoup de projets. Projet de refaire la vision. La vision, c'est ce qui nous unit dans justement ce que nous sommes. Il y a le projet des assises de la transmission dans laquelle nous avons eu le dernier enseignement avant le confinement avec Luc Bussière. Nous avons énormément de projets ensemble pour être une Église signe, qui signifions que le royaume de Dieu est déjà là, mais il n'est pas encore pleinement achevé. Mais nous sommes là, passant les bâtons de témoins d'une église à l'autre, d'une génération à l'autre, jusqu'à ce qu'ils viennent. Amen. Seigneur, veux bénir ta parole. Et bénir, Seigneur, ce qui nous unit ensemble, Seigneur, c'est toi seul, Seigneur, c'est ton esprit. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu as fait de nous un peuple de Dieu, Seigneur, qui manifestons ton royaume ici-bas, à condition que nous soyons, Seigneur, conformes à ta parole. Alors veuille nous aider, veuille nous accorder ta grâce. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen.